débat.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 70 de Démo et Débat où l'on critique vos livres. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos propositions, vos listes de livres, vos livres uniques, c'est plus commode d'avoir des listes, ça augmente notre base de données, à l'adresse suivante podcastdmed@gmail.com, podcastdmed@gmail.com. Pour ce mois-ci, nous avons comme d'habitude trois livres que nous allons chroniquer, Une mère d'Alejandro Palomas, L'enfant caché de Loïc Devilliers et Marc Lizzano, et, je prends une respiration, Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée de Jean Raspail. Pour ces critiques et pour ces chroniques, nous avons l'habitude d'accueillir deux chroniqueurs. Ce mois-ci, nous avons un petit empêchement du côté d'Inès, qui nous a laissé quand même quelques indications. Je me fais quand même une joie d'accueillir à nouveau Fabien. Salut Fabien.
Bonjour Armand.
Comment ça va?
Bah, très bien.
Quelle est ta phrase du mois?
Ma phrase du mois était « Il était jeune et, à ce titre, n'avait pas ce respect de l'âge dont témoignent essentiellement les personnes âgées. »
C'est de quelqu'un en particulier?
Oui, c'est de Pratchett.
Très bien, merci. Ma phrase du mois, personnellement, j'ai choisi « POV, je parle au chroniqueur fou pour ne pas qu'il me tue. » Et c'est de moi. Voilà, si vous vous demandez, c'est une phrase originale.
800 pages de trop,
putain, c'est si bon.
15 chapitres pourris.
C'est extra.
Sans transition, nous passons aux critiques. Nous commençons par le livre d'Alejandro Palomas, Une mère, que va nous présenter Inès, même en son absence, elle nous a laissé une petite note vocale pour nous présenter l'ouvrage.
Une mère est un roman d'Alejandro Palomas qui est relativement récent, puisque paru en 2017. À la faveur d'un dîner célébrant le passage à la nouvelle année, qui est synonyme de renouveau, l'histoire revient sur le parcours d'une famille au travers de ses traumatismes et de ses pertes. Dans cette œuvre qui est divisée en plusieurs chapitres qui reviennent sur les différentes étapes de la soirée, le narrateur qui est aussi le fils cadet, Fernando, nous raconte sa famille, dont les différentes histoires se centralisent toutes autour d'une seule personne, la mère Amalia. Fantasque, maladroite, mais attachante et humaine, elle cristallise tous les fardeaux de cette famille qui essaye de guérir depuis plusieurs années.
Merci Inès pour cette présentation, tu es avec nous malgré tout. Fabien, qu'as-tu pensé de manière générale de ce court roman ?
Je l'ai vraiment aimé, tout simplement déjà beaucoup aimé le style, pour commencer sur la partie de la forme. J'aime beaucoup la structure du roman, où en fait c'est, comme expliqué, hein, on va suivre ce repas, mais avec des allers-retours non-stop, quasiment presque un chapitre sur deux, vont être des flashbacks ou des retours, et c'est une structure assez agréable à lire, qui s'approche presque du... Pas vraiment du théâtre, mais en quelque sorte...
Il y a un petit élément de théâtre dans la mesure où, en tout cas, on va dire la scène principale, comme tu disais, comme disait Inès, c'est un repas. C'est un petit peu un huis clos avec des flashbacks qui vont nous permettre de découvrir d'autres endroits et d'autres temporalités.
C'est ça, et d'éclairer un peu justement tout ce qui va se passer. Ça, la manière dont c'est écrit est extrêmement fluide, c'est extrêmement bien écrit. Donc ça, c'est vraiment sur la partie forme. Et à côté, sur la partie histoire, telle la manière dont c'est écrit, c'est une histoire qui est extrêmement poignante, avec énormément d'émotions, et alors des émotions dans tous les sens, hein, des fois où j'ai vraiment rigolé, vraiment à vote, parce que c'est vraiment drôle et bien écrit, et des moments qui sont beaucoup plus tristes, beaucoup plus, limite à pleurer, en fait, la manière dont c'est raconté sur des aspects certes tristes, des aspects forts, émotionnels, sur tous les éléments en fait, qui peuvent tourner autour des thématiques de la famille, et de tout ce que ça peut engendrer aussi, de la perte, de ce qu'on peut y gagner, de cet ensemble. Donc ça, et aussi, qui rejoint ce style d'écriture, les personnages qui pour moi sont...
Le cœur du récit, ouais.
Le cœur du récit, et qui sont excessivement forts. Chaque personnage a une vraie personnalité et apporte énormément. Moi, j'en ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu as un avis sur cette partie de personnage en particulier. Ou...
Alors, ça va être un avis assez global, mais je vais reprendre tes points et je vais être assez d'accord avec toi en termes de format. Ce qui m'a plutôt heurté positivement, c'est qu'il n'y a aucune longueur. J'ai l'impression que le roman est hyper efficace dans sa conception, où il y a... Je sais pas comment Palomas s'y est pris pour l'écrire. On sent que c'est quand même quelque chose de très personnel, où il met des anecdotes de sa vraie famille, hein, tout simplement. Mais il y a aucun épisode superflu. Tout est bien amené. Il y a aucun passage moins bien qu'un autre, je trouve. Il y en a qui sont, alors, je vais être un petit peu technique. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais il y en a aucun qui est vraiment moins bien. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu le sentiment qu'on a à la lecture.
C'est un sentiment sur lequel je te rejoins. Il y a vraiment des pics, mais il y a vraiment pas de bas, en fait.
C'est ça.
Toujours un niveau.
Disons que les pics sont élevé. Très, très hauts. Les pics sont très, très hauts. Pourquoi c'est très, très haut? Parce que, comme tu le disais, ça fait appel aux émotions. Et là où c'est assez malin, c'est qu'en rentrant dans le récit, donc on y rentre de manière très facile, parce que c'est bien écrit, et je me permets de donner un petit mot à la traduction, parce que c'est un roman espagnol au départ. La traduction est parfaite, hein. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un roman qui a été écrit en français. On sent pas du tout de passage d'une langue à l'autre. Donc, traduction incroyable, et justement, ça fait appel aux émotions. À partir de personnages très prosaïques. En fait, on part d'un repas de famille, un 31 décembre, avec des personnages qui, au départ, voilà, on rentre dans une famille quand même, donc on se dit, il va falloir un petit temps pour installer les personnages, etc. Les personnages se dévoilent par rapport à leurs anecdotes de vie, et au fur et à mesure, en fait, on suit toute la soirée du 31, donc ça inclut la préparation de la soirée, le dîner, le digestif, après le dîner et le lendemain matin. Donc vraiment, c'est une très longue nuit qui permet d'installer les flashbacks que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est à partir d'histoires personnelles et très dramatiques au final. Tu disais que c'était un roman sur la perte, je crois que c'est ça que tu as utilisé comme terme.
En partie, oui, la perte qui est une partie de la vie.
Moi, je pense que c'est un roman sur le deuil, vraiment. C'est-à-dire le deuil littéral, hein, d'une personne. Je vais pas trop en dévoiler l'intrigue. Le deuil d'une personnalité, parce que dans la famille, à partir justement du premier deuil, on a une des filles qui va changer complètement de personnalité, et du coup, la fratrie et même la mère, du coup, qui est un des personnages centraux du récit, d'où le titre, vont être complètement en recherche de cette ancienne personnalité qui a été complètement effacée ou mise derrière une carapace. On va avoir du deuil d'une vie passée, on va avoir du deuil d'un couple. Un deuil de plusieurs couples et un deuil d'un père absent qui est aussi le point central du récit. C'est un personnage qui n'intervient pas mais auquel tous les personnages et notamment les personnages féminins vont s'être construits en creux.
Oui, et qui pour moi est vraiment le point de départ. Il n'est plus là. Alors, il n'est pas mort. Hein. Il est parti. Je pense que c'est parce qu'on parlait de deuil, mais ça peut être aussi juste
c'est
deuil.
C'est métaphorique, tout à fait.
Mais je te rejoins.
C'est comme s'il était complètement... il est sorti de la famille.
Il est sorti, mais parfois, comme ça peut montrer, le deuil est multiforme. Mm-hmm. Il est pas forcément. Autant il y a des deuils qui sont plus durs, autant celui-là, par exemple, le personnage central de la mère, le vit très bien, ou en tout cas le vit, en tout cas, ce départ, et on se met à vivre fortement, ce qui est pour moi le personnage le plus... c'est pas le plus intéressant, le plus drôle à lire, une personne qui perd la vue, qui a retrouvé la liberté parce que son mari est plus là, qui veut toujours bien faire, qui est super maladroite, il y a tous ces éléments là qui donnent un personnage extrêmement théâtral quelque part. Je reviens sur cette métaphore, mais pour moi c'est vraiment cette sensation de voir un personnage théâtral, ce personnage de mère qui aime sa famille et qui était un peu opprimé par son mari et qui essaie vraiment de vivre, de commencer à vivre, à passer 60 ans.
Ouais.
Et c'est là-dessus où voir aussi comment ça vivre à travers sa famille, avec sa famille, parfois aux dépens de sa famille. je pense que oui, si tout le monde a eu une famille, une mère, des repas de famille, c'est un roman qui peut parler. Donc c'est pour moi, c'était vraiment... gros coup de cœur.
Mais tu spoiles ta recommandation, Fabien.
Je sais pas, je peux essayer, je peux rapidement faire les points que j'ai pas aimés.
Oui, attends,
j'en ai pas.
J'allais dire, on va d'abord repasser sur juste ce que tu disais parce que c'était très intéressant. Pour boucler juste d'abord très brièvement sur le deuil, pourquoi je parlais de deuil de la figure paternelle, parce que justement les membres de la famille apprennent à vivre sans lui progressivement. Il y a d'abord un peu de déni et ensuite ils commencent à se construire par rapport à son absence. Donc on est vraiment dans les étapes du deuil un petit peu classiques. Là où je te rejoins énormément aussi, c'est que c'est un roman sur lequel tout le monde va pouvoir projeter quelque chose, pas parce qu'on a exactement les mêmes membres de famille, et non pas justement parce qu'ils sont archétypaux, mais parce qu'ils sont très originaux et qu'ils ont des émotions assez complexes, avec plusieurs couches, et qui vont faire appel à des faits qu'on va peut-être avoir vécu, ou des faits qu'on va projeter, ou des craintes, hein, tout simplement. Mmh. Qui font que justement on s'identifie beaucoup à des personnages ou à des situations et pas forcément celles qu'on va croire de premier abord. Et ce qui est très intéressant avec le personnage central de la mère, c'est comme tu le dis, elle est maladroite, elle apprend à vivre un peu par elle-même assez tard, elle apprend aussi un petit peu à occuper la figure de mère tout simplement au sens assez familial du terme, donc c'est-à-dire d'être présente et d'être une personnalité modèle pour ses enfants, alors qu'elle est très maladroite et qu'en fait broute de décoffrage. Et en gros, si on est assez honnête sur ce qu'elle fait, mais elle s'en rend pas compte, et on va le dire avec un langage d'aujourd'hui, elle dit des dingueries.
Oui, et ce qui est marrant, c'est le pourquoi elle est dit la plupart du temps, c'est cette peur du vide.
Oui.
Cette volonté de meubler, quitte à meubler avec tout et n'importe quoi, et on rejoint sur cette partie de maladresse et qui va en fait se laisser à, pour ne pas qu'il y ait de vide, vouloir meubler à tout prix, quitte à creuser, et le fameux tu ferais mieux de te taire, tu creuses encore, ce n'est pas un concept qui arrivait à ce personnage, qui en fait quelque chose, un personnage excessivement comique par moment. Et c'est là aussi où je te rejoins sur le fait qu'on peut se projeter pas forcément sur les personnages qui sont extrêmement forts, donc pas à 100%, mais sur le fait que c'est des personnages qui vont être qui sont complexes, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des ouvrages et des personnages qu'on peut trouver, et qui vont être remplis de contradictions, de vouloir absolument aimer, mais parfois d'arriver à dire, comme tu dis, des énormes dingueries et avoir le reste de la famille qui la regarde s'enfoncer en sachant pas forcément comment réagir.
Ce qui est intéressant avec ce qu'elle dit de manière maladroite pour combler ce vide, c'est que souvent c'est ça qui va faire un petit peu évoluer la discussion ou les souvenirs. C'est-à-dire elle le provoque malgré elle. Et du coup, elle a quand même une fonction centrale malgré ses maladresses.
Oui, tout à fait. C'est pas le narrateur n'est pas du tout le personnage central de l'histoire.
C'est vrai.
C'est la mère, d'où le titre du roman. Donc finalement,
j'ai une petite question à ce sujet, ou en tout cas une interrogation. Est-ce que la mère, une mère, c'est la mère le personnage central dont on parle depuis tout à l'heure, ou bien c'est la grand-mère, la mère de la mère qui intervient, qui plane sur le récit et qui intervient dans ce qui est probablement le moment pour moi le plus beau du livre, c'est-à-dire la fin, qui est poétique, oui, et qui est sur un registre complètement différent. C'est très court, hein, la fin est très courte, complètement différent du reste du récit qui, comme je disais, est assez banal, en tout cas dans ce qu'il évoque, des relations interpersonnelles, des dynamiques de famille. Il y a de la complexité, certes, mais c'est quand même des sujets du quotidien. La fin avec la grand-mère, moi, j'ai trouvé ça incroyable.
Oui, oui, oui. Après, ce que tu disais sur une mère, ça peut se rapporter à plein de personnages, finalement.
Oui, 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 tout à fait. C'est un peu le terme polysémique qui s'applique. Faut pas divulguer, mais il y a plusieurs mères.
Je pense vraiment que ça reste, non, le personnage de la mère, celle qui accueille, c'est celle qui est l'élément moteur de tout, en fait, même pour ses enfants, qu'il est souvent. J'ai vraiment ce personnage, je pense, qui est central, et comme dit, qui n'est pas le narrateur. Le narrateur est un peu en retrait, finalement. Il a sa place dans cette famille qui est complexe, la famille, et lui-même.
On pourrait
aussi
dire un petit peu folding.
Oui, 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 c'est... Mais chacun ayant plein d'aspects sur lesquels, effectivement, peut se raccrocher ou non sur d'autres, mais qui donne un ensemble très cohérent au final, avec des personnages qui, pris séparément, sont tous extrêmement, certains sont exubérants, d'autres sont un peu déphasés, mais l'ensemble donne un aspect assez cohérent, justement, avec tout le monde a ses petites contradictions. Bon, là, elles sont très grandes, hein, dans le roman, mais c'est le style fait qu'on passe par-dessus. complètement, et même c'est un moteur du récit, donc ce n'est absolument pas gênant.
Oui, et chaque personnage aussi a ses traumas, ce qui est assez, assez prononcé dans l'histoire. Et j'ajoute justement, puisque tu disais que le narrateur était un peu effacé, je pense que c'est un choix d'Alejandro Palomas, dans la mesure où je crois que c'est Ferdinand.
Fernando.
Fernando, je vais le refaire alors. Ça, parce
mais
que
c'est Fer.
J'ajoute que le narrateur, comme tu disais, est assez effacé et que Fernando, le fils, est un des rares personnages masculins de la famille. Donc, on a trois personnages masculins. On a le narrateur qui est effacé, on a le père qui est absent et on a l'oncle qui est complètement exubérant et qui est un gros mytho, faut aussi le dire, a priori, qui a un beau parleur, qui n'arrive pas à occuper justement la place laissée vacante par le père. Et on ne sait pas trop si les femmes de la famille attendent qu'il le fasse ou si lui essaie de prendre ce... Putain, mouchette !
On l'a entendu.
Ah bah, je vais recommencer. Dégage.
Je sais pas où j'en étais. On ne sait.
Oui. On ne sait pas si les femmes de la famille attendent de lui qu'il prenne ce rôle, parce qu'il y a une histoire de tradition, c'est une famille un peu classique, et qu'on est quand même dans une société qui est décrite, en tout cas de manière indirecte comme patriarcale, ou si lui n'arrive pas non plus à prendre cette place, et c'est un peu des deux, mais tout ça pour dire qu'en fait les femmes sont les personnages centraux du récit, que ce soit la mère ou les filles, ou les sœurs, ou les compagnes des frères, ou de l'oncle, ou d'une sœur, et que l'absence de la figure du père fait qu'on est sur un roman complètement anti-patriarcal,
oui.
Qui laisse se dérouler complètement les personnages féminins, avec le narrateur, qui est le personnage supposément, au départ, en tout cas central, c'est par lui qu'on rentre, qui est complètement effacé. Et j'ajoute, en termes de dispositif narratif, qui est assez intéressant, c'est qu'on a pas mal de points d'entrée qui sont externes à la famille, c'est-à-dire les pièces rapportées, les conjoints, les conjointes d'une des sœurs ou de plusieurs des sœurs, qui sont un petit peu les étrangers, qui sont là depuis quelques années, qui sont acceptés sans être acceptés. Et en fait, le lecteur a tendance un petit peu, je trouve, à se projeter dans les personnages qui sont rapportés, parce qu'on débarque dans la famille.
Oui, il y a cet aspect-là. Juste sur la partie où tu dis une famille un peu traditionnelle, oui et non, traditionnelle dans le sens où intégrer ce rôle du père, etc. Une famille qui est par contre pas traditionnellement forte, on pourrait dire, dans un schéma standard, dans le sens où déjà le narrateur est gay, il y a une de ses sœurs qui est lesbienne et qui est avec une de ses sa compagne est présente, qui n'est pas forcément très bien acceptée, la compagne, non pas parce qu'elle est lesbienne, mais parce que sa personnalité dérange énormément une autre sœur. Donc c'est sur cet aspect-là, je ne sais pas si c'est traditionnel, et le rôle de la mère là-dedans, on y revient sur cet aspect à dire des dingueries et autres, qui peut se retrouver aussi bien pas du tout dans son rejet, c'est ses enfants, c'est sa famille, elle les accepte, mais à dire des choses qui pourraient être, on pourrait penser... disons, dans l'air et générationnel, qui peuvent être complètement choquantes et qui sont en décalage total finalement avec ses propres actions, ce qui amène aussi ce côté comique dont on parlait.
C'est pour ça que je parle de tradition, je me situe plus au niveau de la génération de la mère, qui très globalement, enfin très, très concrètement, sans forcément le vouloir, mais peut-être par répétition ou automatisme, a quand même des saillies ou homophobes ou racistes.
Tout à fait.
Ou les deux.
Mais qui sont... qui sont pas mises là et valorisées. Hein. C'est généralement.
Non, bien sûr. C'est le personnage qui parle.
C'est le personnage et prend un tacle derrière dans la seconde et on revient sur ce personnage qui fait tout pour meubler et quand elle prend un tacle, se rend compte qu'elle a été mise dans une mauvaise position, ce qui la dérange encore plus et elle essaye de remeubler ou de changer de sujet. C'est toujours très très drôle parce que. Encore une fois, c'est excessivement bien écrit.
C'est cette dynamique qui est intéressante, c'est-à-dire avec ces dingueries, comme on disait tout à l'heure, elle provoque la discussion, elle fait avancer le récit, et d'un autre côté, elle se prend le retour directement de « Maman, ce que t'as dit, c'est pas OK, et du coup, il faut pas penser comme ça », et du coup, elle fait aussi un petit cheminement et se construit un petit peu comme ça aussi, sur le tas.
Tout à fait.
Beaucoup de choses positives à dire de cette mère d'Alejandro Palomas. A priori, pas de négatif, puisque Fabien, tu disais tout à l'heure que tu n'avais aucun point. J'ai pas vraiment de négatif non plus à sortir de cette lecture. Je vais quand même te demander si tu recommanderais ce roman, Fabien.
Complètement. Vraiment, lisez-le. Ça peut, en plus, ça se lit très facilement, donc ça peut même se lire un roman à la plage ou posé n'importe où, et c'est excessivement bien.
Inès nous transmet également sa recommandation. Elle valide totalement et elle recommande sans réserve ce roman. Nous sommes donc trois, puisque moi également, je vais le recommander sans hésitation. J'ajoute aussi, pour terminer, que et pour conclure, qu'il y a deux personnages qu'on n'a pas cités qui sont des chiens. Donc, si vous aimez les chiens dans la littérature, n'hésitez pas non plus, puisque c'est un petit plus. Ils font partie de la famille et ils sont très présents dans le récit. Inès n'étant pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui, Fabien s'est fait un plaisir de nous trouver un extrait pour vous illustrer ce qu'on pense de ce livre.
Absolument, fait Olga, qui tendue s'efforce de sourire. Les autres ne disent rien. Maman est toujours enfermée dans sa salle de bain. Elle fredonne. Ah, la maternité, renchérit oncle Eduardo en faisant mine de se pâmer les yeux au ciel. Quelle merveille de sentir une vie en soi, poursuit-il une main posée sur le ventre. Le miracle de la nature, sans nul doute l'une des plus belles expériences qui soit. Aïe, aïe, aïe. Sylvia se raidit un peu, la tête dans les épaules. Puis, elle baisse le menton, un sourire plaqué sur les lèvres. Comme tu as raison, tonton. D'ailleurs, nous gardons tous un souvenir ému de notre visite à l'hôpital lorsque nous t'avons vu après ton accouchement des triplés. Oncle Eduardo la regarde, interloqué, puis éclate d'un gros rire qui fait vibrer l'air de la pièce.
Merci Fabien pour cet extrait. Nous passons à la deuxième critique de ce mois-ci, L'enfant caché de Loïc Devilliers qui signe le scénario et Marc Lisano qui signe le dessin. Je me permets aussi de citer Greg Salcedo qui a réalisé les couleurs, puisque je ne l'avais pas cité en introduction. Alors, L'enfant caché, qu'est-ce que c'est L'enfant caché ? C'est une bande dessinée qui est parue en 2012, où on suit l'histoire de Dounia, une grand-mère qui raconte à sa petite fille Elsa l'histoire de sa vie. Et l'histoire de sa vie, elle est pas très très réjouissante, puisque lors de son enfance, quand elle est petite fille, Dounia est en France, et c'est pendant la période de l'occupation. Donc, au travers de Dounia... Donc on retrace ce que ça veut dire pour les enfants, hein, l'application de cette période pour des bambins qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe, notamment à l'école et dans les groupes d'amis, et donc par quoi ça se traduit par de la stigmatisation et de l'humiliation. Mais comme je disais, comme ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font, c'est plutôt par du mimétisme des adultes, l'exclusion de l'école et les parents qui doivent partir ou qui sont chassés, soit qui sont en fuite, soit qui sont raflés, et la création d'une nouvelle identité entre gros guillemets française. Même pour des enfants, dans l'exemple du récit, on suit donc la petite Dounia Cohen qui doit être renommée en Simone Péricard, donc avec tout ce que ça implique comme trouble de l'identité et puis adaptation à un nouveau nom quand on est un enfant, adaptation à une nouvelle famille, etc., etc. Donc on suit cette histoire. Hein, toute l'histoire, c'est vraiment le récit de la grand-mère à sa petite fille. Donc c'est vraiment l'histoire de la grand-mère. Histoire au demeurant, donc. Qui s'attache à des faits, donc qui est un peu archétypal, mais j'ai trouvé assez forte dans la manière de le montrer, vu qu'on est par le prisme d'une petite enfant, hein, on est sur quoi elle a 6-7 ans, hein, c'est quelque chose de vraiment niveau école primaire, et on a évidemment ce parallèle très fort entre deux petites filles avec une histoire transgénérationnelle qui est là pour représenter le devoir de mémoire et de transmission littéralement entre... j'allais dire deux voire trois générations où on a la petite fille qui vient se faire conter par sa grand-mère sa vie quand elle-même était petite fille, donc on a vraiment ce passage de témoin qui était assez intéressant. Fabien, qu'as-tu pensé, pareil, je vais te poser la même question que sur le premier livre, de manière plutôt générale de cet enfant caché?
Déjà sur le style que j'aime bien, qui est assez expressif, le style de dessin, qui a ce petit côté enfantin qui colle très bien à l'âge des personnages et absolument pas à la thématique, qui aussi permet d'adoucir une partie de ce qui est dit,
oui.
qui est très bien, que pareil, ça colle aussi, l'histoire garde ce que tu disais, ce point de vue enfantin finalement, où même si c'est une personne âgée qu'il rencontre, elle raconte comment elle a vécu en tant qu'enfant, donc sans même essayer de prendre du recul d'explication, Carrossier le raconte à un autre enfant, donc cette histoire de transmission dont tu parlais, et qui permet de garder un point de vue finalement un peu enfantin, parce qu'une personne qui a plus de 70 ans ou 80 ans pourrait, si elle souhaitait, modifier un peu, enfin expliquer un peu plus ce qu'elle a vécu, mais elle essaie vraiment de garder son propre point de vue d'enfant pour le raconter à notre enfant, que je trouve assez intéressant. C'est un livre que j'ai trouvé de manière globale très tendre et qui, pour parler d'un sujet assez violent, je pense, comme on peut le dire, bien aimé aussi que l'histoire va être beaucoup axée sur la solidarité. Alors certes, tu parlais du rejet des autres enfants, mais on va à travers cette trame, on va voir sa vie, elle va être plus axée sur la solidarité, la résistance plus ou moins passive ou active, avec des gens qui s'engagent vraiment pour sauver et d'autres qui refusent. De la même manière aussi avec des personnes qui vont être plus dans la collaboration. Mais on est rarement sur la description de la violence. On la voit pas. La violence.
Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est là que je trouve que alors pour deux raisons, cette bande dessinée fonctionne, remplit complètement son office. À la fois, comme tu disais, par le côté enfantin et le discours qui est... Alors, le discours n'est pas édulcoré, comme tu disais, il n'y a rien qui est caché, mais la manière de l'aborder est assez... c'est adapté aussi à un jeune public. Donc ça, c'est plus pour le côté médium bande dessinée. Et ensuite, ce que j'ai trouvé malin, c'est ce que tu commences à dessiner, sans mauvais jeu de mots, c'est le fait qu'on te raconte la Shoah, très concrètement, sans te montrer l'horreur. La seule... horreur qu'on voit concrètement, je veux dire vraiment physiquement, c'est des corps émaciés. On voit pas plus que ça. C'est-à-dire, le corps émacié, c'est déjà quand la personne, sans dire qui c'est, a été sauvée. Donc en fait, elle est déjà hors des camps. Donc en fait, c'est une histoire vraiment, c'est vraiment raconté par ce qui s'est passé à la petite fille sans nous montrer la Shoah elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez puissant.
Oui, de la même manière, il y a une scène... assez vite au début, où là, alors on ne sait pas trop si c'est de la police ou n'importe qui, mais qui rentre et qui viennent les rafler.
Oui.
Donc c'est, de toute façon, on est complètement, si j'ai bien compris, dans la période de la rafle, ça doit être complètement la rafle du Veldiv. Et donc un peu avant, au moment où on les emmène justement au Veldiv et où elle va être cachée. Donc en fait, il y a un focus sur elle, il y a des bruits autour, mais il n'y a rien qui est montré.
Alors,
elle est cachée et ensuite, on a juste un aperçu du décor, donc de l'appartement un peu ravagé, mais pareil, cette violence n'est pas montrée, elle est toujours suggérée parce qu'elle est présente, mais il n'y a pas une volonté de la mettre en avant, parce que aussi ce n'est pas ce que la petite fille elle voit, et ce n'est pas non plus ce que la grand-mère veut raconter, donc c'est pour ça que je te rejoins en disant que ça fonctionne bien grâce à ça.
Et à aucun moment, en fait, on ne quitte le point de vue de Dounia, parce que quand elle est dans je crois que c'est un placard de mémoire, on l'accompagne dans le placard, on accompagne sa peur, on lit les sons qu'elle entend, et on doit aussi nous déterminer ce qui se passe, même si en tant qu'adulte, on connaît l'histoire avec un grand H. On voit, en fait, on suit toute l'incompréhension de l'enfant. Et c'est vraiment l'angle de la bande dessinée, c'est vraiment la découverte, même pas progressive, mais c'est un peu l'enchaînement des événements avec la réalisation plutôt vers la fin de ce qui s'est passé.
Tout à fait, oui. Cette histoire, c'est vraiment ce point de vue, cette histoire de transmission, en fait, d'une histoire d'un enfant à une autre, même si l'enfant qui raconte l'histoire est finalement la grand-mère de l'autre. c'est ce point de vue-là qui est gardé.
Cet aspect, en fait, qui est assez malin, c'est un petit dispositif créatif, c'est que quand la petite fille, au tout début, donc les deux premières planches, vient près de la cheminée rejoindre sa grand-mère les deux n'arrivent pas à trouver le sommeil et qui va donc la grand-mère qui va lui raconter son histoire. Le dessin de la petite fille, donc Elsa, c'est exactement le même dessin que Dounia dans le récit. Elles sont dessinées de la même manière, elles ont quasiment la même coupe de cheveux. C'est vraiment une projection de génération en génération.
Oui, tout à fait. Il y a l'impression qu'ils n'ont pas fait deux modèles. C'est le même modèle, mais c'est complètement fait pour cette histoire d'héritage, de transmission dont on parle.
Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le titre, donc l'enfant caché, on a effectivement la première lecture qui est littérale de se dire, elle a été cachée parce qu'elle devait se cacher des collabos et de la police pour ne pas se faire attraper, donc l'enfant caché, mais aussi, ça me permet de le préciser à ce moment-là, que Dounia raconte cette histoire pour la première fois. Elle ne l'a racontée à personne et elle se livre dans son vieil âge à sa petite fille. Et justement, elle a caché cet enfant qui était en elle pendant toute sa vie.
Y compris à ses enfants.
Tout à fait.
Tout à fait, oui. Non, c'est, pour moi, c'est vraiment intéressant et ça marche bien.
Donc, par contre, est d'accord.
Si je dois y mettre un bémol, le bémol va pas vraiment être sur la partie d'écriture, de dessin, comme on l'a dit, où ça marche. Je crois que même le livre a sûrement eu des prix et ça marche bien. Moi, mon bémol, c'est que ça va être quelque part une histoire un peu. Bon, c'est une histoire inventée, donc ça, mais ça, pourquoi pas. Et surtout, c'est un peu un peu vu et revu sur les. La thématique qui est brassée sur le contexte, c'est un contexte qui est quand même extrêmement utilisé et usité dans la fiction. Je peux comprendre pour l'attrait, hein, parce qu'il y a quand même des choses à en dire. Je trouve un peu que c'est toujours un peu limité de un point de vue un peu juste chez nous, juste sur la Seconde Guerre mondiale, juste sur ça. Je trouve que c'est un peu... C'est quelque chose... Ça m'a pas fait un phénomène de me dire que je lisais quelque chose de complètement nouveau. C'est des histoires que j'ai déjà lues, que j'ai déjà vues. Là, elle est très bien racontée, mais c'est pas, ça m'a pas pris. Enfin, j'ai pas eu l'impression de plonger dans autre chose. Et vu que c'est pas non plus une biographie, au début, je pensais que c'était une biographie. Du coup, je trouvais ça intéressant. Le fait que ça n'en soit pas une, bon, bah d'accord. Bon, c'est un roman, mais finalement, enfin, c'est une histoire comme on en a plein comme ça. Donc, c'est un peu mon bémol.
Je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut prendre la bande dessinée comme justement comme médium et comme angle ou point de vue. Plutôt, c'est vraiment un point de vue qui n'avait pas été traité. Donc, ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire c'est efficace. Si on ne connaît pas ou si on veut un petit rappel historique, bah ça remplit complètement son, ça fait le job quoi. Mais on ne va pas y trouver de l'originalité. Ça c'est clair.
Voilà. Après, si on veut s'en servir pour parler de thématiques. De violence, d'héritage.
Notamment
de...
pour un jeune public. Hein,
c'est... Voilà, pour un jeune public, ça, c'est une très bonne porte d'entrée, effectivement, parce que comme on dit, la violence est un peu suggérée, mais elle n'est pas directe. En tout cas, elle sera largement suffisante telle qu'elle est liée pour un jeune public. Voilà, si je dois donner un point, effectivement, ce sera plutôt cette porte d'entrée jeune public. Pour un public un peu plus adulte, comme on l'a dit, c'est... j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose à un récit connu. Et encore une fois, si ça avait été vraiment une biographie, c'est complètement différent. Si c'est l'histoire d'une personne qui est racontée, on peut pas non plus lui jeter la pierre. c'est son vécu, c'est son histoire. Là, pas du tout, c'est quelque chose d'entièrement inventé.
C'est pour ça que je parlais d'archétype, c'est-à-dire c'est vraiment une version en bande dessinée de l'horrible histoire de la Shoah au travers d'un personnage enfantin inventé. Et en fait, on le voit même très bien sur la couverture. La couverture, elle est très simple. On a un fond de ville indéfini. Bon, c'est Paris, a priori. On a Dounia qui est pressée, en train de fuir, mais de manière un petit peu... on voit qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit l'étoile jaune, et c'est vraiment le seul truc, si on ne connaît pas, si on n'a pas lu la quatrième, qui va nous dire dans quelle période on est. Donc, ça reste... Voilà, c'est ce que c'est, et c'est pas plus que ça ne prétend être, en tout cas.
Exactement.
J'aurais un dernier mot pour parler d'une chose qui m'a dérangé, pas du tout sur le fond, mais sur la forme. Je me permets d'ouvrir la bande dessinée. Donc s'il y a des bruits de page, c'est pour ça. Autant le dessin m'a pas choqué, même s'il est simpliste, il fait son effet, il n'y a pas de souci, ça colle complètement au ton du récit. En revanche, j'étais un petit peu embêté par le lettrage, où parfois j'ai trouvé que c'était difficile à lire. La police d'écriture, en tout cas le style d'écriture qui a été choisi, est assez étiré et assez petit. Et au début, ça m'a vraiment gêné. Donc je voulais le dire, si vous êtes un peu myope, si vous aimez les choses écrites un peu grosses, ou un peu gros, en tout cas si je parle en français
correct. Ou un peu clair.
Ou un peu clair. Au début, c'est un peu difficile, il faut faire une mise au point, quoi.
Oui, je peux parfaitement comprendre. Effectivement, on a un style qui veut un peu s'approcher de l'écriture à la main et qui complique plus la lecture qu'autre chose, mais qui matche bien avec les dessins. Donc, moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends bien que ça peut être un souci.
Je pense qu'on arrive au terme de la discussion sur cet enfant caché. Est-ce que, malgré tes réserves, Fabien, tu recommandes cette bande dessinée?
Oui, quand même, oui, y a pas... c'était juste un petit bémol, mais globalement, c'est quand même très très bien.
Ok, merci. Inès, à nouveau, nous a transmis son avis sur la BD. Elle la recommande également. Ce qui fait que, comme pour le premier roman, nous allons être trois d'accord. Pas trop de clash ce mois-ci pour le moment, mais je pense qu'on se réserve pour le troisième. Je dirais que c'est simple en résumé, mais poignant, donc c'est efficace. C'est une bonne approche, notamment pour un jeune public de cette période historique très très compliquée. Ça fait pas de mal à lire, c'est un bon rappel aussi dans la période actuelle. Mais on va pas y trouver des vertus ni historiques, ni originales, ni comme le suggérait Fabien, une histoire personnelle, donc biographique, qui serait voilà, quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'ici, mais recommandé tout de même. Et nous passons pour terminer à la troisième critique. Je vais me faire un plaisir, mais non dissimulé, de vous rappeler le titre avant que Fabien ne vous le présente. Ce livre de Jean Raspail, Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée.
Tout à fait. Alors, de quoi parlent donc sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée? Eh bien,
Est-ce que tu vas le répéter en entier à chaque
non, je
fois?
propose d'ailleurs qu'on l'appelle sept cavaliers pour des raisons pratiques.
Proposition
Très
acceptée.
bien. Le roman se passe dans un cadre géographique assez flou. Qu'on définira comme étant plutôt européen, mais dont le pays est assez inconnu, dans une époque assez floue, qu'on peut définir plus ou moins comme le 19e siècle, vu ce qui est décrit, mais sans beaucoup plus d'éléments. Ça, et la ville, qui n'a pas de nom spécifique, et le territoire voit en fait un peu. Sont un état d'abandon en cours, il y a de moins en moins de nouvelles, il y a de moins en moins il y a plus de trains, ce qui permet de savoir aussi ça. La population s'enfuit, enfin, l'état global va de moins en moins bien, et le dirigeant, qui s'appelle le margrave et héréditaire, va commander à plus ou moins les sept derniers pélos qui restent et qui sont pas prêts à mourir, voir s'ils veulent pas aller voir si par hasard à l'autre bout du pays il n'y a pas des nouvelles qui viennent de l'étranger ou quoi que ce soit, enfin faire un tour. Et ces sept cavaliers donc qui vont quitter la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'est plus gardée s'en iront justement faire le tour et vont faire un peu le tour du pays en passant par le port, la montagne, la plaine, la forêt, vers cet objectif plus ou moins déterminé avec assez peu de chances de retour et vont rencontrer du coup ce pays en déliquescence au fur et à mesure avec tout ce que ça peut, tout ce que cela peut. Disons, suggérer et amener.
Ok. Alors, je sais pas par quoi tu veux commencer, mais peut-être parler revenir sur l'objectif de ces sept cavaliers qui quittent. Bon, j'arrête, je vais pas dire en entier. De ces sept cavaliers qui ont donc un objectif un petit peu flou, hein, c'est un peu flou, d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux, en
C'est
fait.
ça.
De trouver quelque chose de bien quelque part.
C'est ça.
Mais ils ont tous aussi un objectif personnel bien défini qui, a priori, n'est pas clair pour eux au
Oui,
départ.
c'est ça. En fait, ils n'ont pas d'objectif personnel, mais c'est les seuls qui ne sont pas entièrement résignés à mourir dans la ville, d'où l'effet qui s'en vont. Plus ou moins des militaires tous qui vont partir et définir au fur et à mesure leurs objectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roman? Donc un roman assez crépusculaire, je pense que c'est plus.
Ouais, moi j'allais dire fataliste, et notamment le début.
Alors oui, et complètement fataliste, mais c'est une ambiance très crépusculaire, qui est très bien écrite, c'est extrêmement bien ressenti, hein, cette ambiance de fin, on ne sait pas trop ce qu'il y a, il y a plus ou moins une maladie, plus ou moins des gens qui s'en vont, plus ou moins une des rébellions diverses et variées, mais donc un état totalement en déliquescence.
La chienlit, quoi.
On pourrait y revenir sur ce terme, mais vraiment, non, c'est cette ambiance crépusculaire qui commence, une ambiance de fin, tout simplement, tout s'effondre, déjà qui pour moi marche excessivement bien, genre, dans la manière dont c'est retranscrit, on le ressent très bien, la manière dont sont décrits les différents éléments. Il commence par une première gare, par un port à l'abandon, des zones anciennes, plus ou moins sous domination de cette ville. de ce pays pas trop connu. Donc voilà, tout ça marche très bien en descriptif pour cette ambiance. L'ambiance installée marche complètement.
Je suis assez d'accord avec toi, voire très d'accord sur l'ambiance. Je trouve que c'est bien présenté. Très difficile de rentrer dans les premières pages, j'ai trouvé, parce qu'on arrive direct dans cette déliquescence sans rien connaître de là où on est. Sachant qu'en plus, on est dans des lieux plus ou moins définis qui sont, pour le dire très franchement et très logiquement, sont fictifs, même s'ils ont des ancrages dans la réalité. Enfin, c'est inspiré de, je sais pas, l'Europe à cette époque, oui. Mais on sait pas où on est.
Oui, quoi. C'est ça. Des pays européens sont d'ailleurs nommés, donc on sait qu'on n'est pas en France, on sait qu'on n'est pas en Bavière parce que le roi est plus ou moins en lien avec le roi de Bavière. Donc voilà, mais c'est pas défini. C'est le dirigeant s'appelle le margrave. Ils ont des noms plus ou moins à consonance allemande ou française. Enfin bon, c'est pas très clair, mais oui, on est en Europe. On y revient, c'est la même chose. Hein. Le timing est pas défini. On arrive à peu près à le dater au 19e siècle parce qu'il y a des.
Voire avant, hein, y a des. Enfin, moi j'ai des.
Des trains.
Il y a des trains. En fait, c'est ce qui m'a un peu surpris. Il y a des trains, mais en même temps, tout fait très médiéval.
Ouais, quoi. Mais d'où le début du 19e, comme si le train était arrivé en 1800, mais on se déplace.
Il y a des armes à feu.
Du coup, il y a des armes à feu. On est un mélange de Napoléon avec des trains.
C'est ça.
C'est pas très clair. On dirait, ouais, le 19e est plutôt le début. C'est pas. Enfin. C'est assez flou.
Bah, quand même, quand le margrave sort son smartphone, c'est un peu. Alors, je plaisante, il n'y a pas de smartphone. Mais voilà, il y a quelques éléments qui font. Enfin, ça participe à cette atmosphère, je trouve, un petit peu de gêne crépusculaire. On n'a pas envie d'être là-bas. Quelques éléments incohérents entre eux ou un petit peu anachroniques. À quelques années près, hein, ce n'est pas des choses qui nous semblent complètement aberrantes, mais il y a quelques aspects, moi, qui m'ont mis un petit peu une puce à l'oreille, je ne sais pas laquelle, où en fait, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, on est dans la réalité, ou est-ce que c'est quelle période historique, on est où ? Je me suis posé pas mal de questions pendant la lecture.
Tout à fait, ça rejoint finalement cette ambiance de fin, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop où, mais
tout se mélange.
Tout se mélange, mais très clairement, c'est en train de s'effondrer. Y a de moins en moins de gens, il y a de moins en moins, il y a des malades, il y a des. Alors, et là, on peut revenir justement sur les visions qui sont portées, les personnages. Quand il y a de moins en moins de gens, les enfants se rebellent. C'est décrit à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une scène qui les énerve et en fait, la plupart des jeunes, c'est genre moins de 15 ans, sont en guerre contre les adultes. Pour ceux qui sont encore là, il n'y a plus de contact avec l'étranger. Des gens s'en vont, mais on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop pourquoi, comment. Il y a toute la question de la vision, finalement, aussi de déliquescence. Plus ou moins, on dirait d'un empire, dans le sens où il y a des moments où ils vont. Quand ils s'éloignent, quand ils arrivent dans la partie montagne, on comprend bien que c'est plus ou moins un peuple vassal, plus ou moins colonisé, qui s'est vu à quel point tout part n'importe comment, essaie plus ou moins de redevenir à moitié indépendant, même si celui-ci aussi est déjà en train d'être complètement déliquescent. Donc c'est, il y a pas d'endroit de, il y a pas de d'espoir hein, dans le roman. Plus on s'éloigne, on pourrait penser qu'on trouve autre chose, mais on retrouve de la déliquescence plus loin. C'est pas forcément gênant, hein, c'est complètement porté. Et c'est un peu cette question de l'espérance qui les a fait partir et qui va faire que chacun a quelque part un but, alors qu'ils se disent eux-mêmes, ces sept cavaliers se disent qu'ils n'ont pas de but, en fait en ont un personnel et qui va essayer de les guider.
Et justement, c'est cet aspect d'aspiration et d'objectif qui est même dit assez littéralement par un des personnages. Alors, je l'ai oublié, je ne sais plus si c'est le personnage principal ou le prêtre, mais qui disent, un des deux dit que c'est cet espoir qui porte les gens, mais c'est des espoirs qui sont perdus, enfin, c'est des espoirs qui n'ont aucune chance d'aboutir sur quoi que ce soit de tangible, et c'est un peu des espoirs qui font complètement perdre la lucidité dans les derniers moments à tous les personnages, et au fur et à mesure, justement, des pérégrinations et de ce voyage vers où on ne sait pas trop, justement, c'est ces espoirs personnels qui perdent les personnages, qui les mènent successivement à leur fin respective.
Oui, alors à leur fin ou à leur départ vers autre chose, finalement.
Oui, mais du coup, ils disparaissent du récit.
Ils disparaissent, il y a aussi ce concept très du. Dès qu'on est parti, de toute façon, c'était tellement déliquescence, on l'a oublié. C'est la question de l'oubli est extrêmement forte. Le pays est tellement en train de disparaître que même les rares personnes qui ont un but finissent par oublier ben, les gens qu'ils ont croisés, les gens avec qui ils étaient. Ils étaient 7, ils sont 6, ben, ils ont oublié l'autre très très vite. Ils sont 5, ils oublient l'autre très très vite. Et chacun, pour une raison ou une autre, que ce soit pour poursuivre son but, pour que ce soit pour aller chercher directement, pour aller voir une femme, pour sa recherche de la religion pour le prêtre. Mmh. Donc chacun a un peu son point de vue. On peut rentrer un peu plus sur les différents personnages que je trouve intéressants. Ouais. De toute façon, il y en a 7 et qui vont grosso modo être à peu près à 3 exceptions près. On dira à peu près l'ensemble des gens qu'on va croiser. C'est assez limité.
Bah, qui vont être nommés, mais il y en a d'autres quand même.
Oui.
Bah, qui sont sur leur passage.
Hein, c'est ça. Dans cette calibre, on aura ce chef, une sorte de lieutenant-major. On va avoir un prêtre, donc qui est le grand ouais. prêtre quelque part du pays. Hein. C'est pas un prêtre random, hein. C'est le grand évêque plus qui décide de partir avec eux. Ça a aussi une portée. Hein. C'est pas du coup, c'est pas un abbé quelconque. On va trouver 2 soldats, ou enfin 3 soldats, c'est on dira random pour faire le nombre. Il y a 2 autres personnages qui m'intéressent particulièrement. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, c'est Adai, qui est plus ou moins le palefrenier et qui est d'un peuple un peu soumis. Mais ça transmet, c'est le bon peuple soumis. Je reviendrai peut-être sur cette partie-là tout à l'heure. Donc qui va être un peu leur éclaireur, l'homme à tout faire, etc. Et enfin, un autre personnage qui est excessivement important, qui est un jeune cadet, qui a 15 ans et quelques, et qui, quelque part, est la dernière lueur d'espoir du pays. C'est le dernier jeune qui est toujours fidèle au margrave, qui ne s'est pas enfui, qui n'est pas en rébellion, et qui va être même le premier à aller se battre contre tous ces jeunes en rébellion, et qui lui-même justifiera, c'est assez vite hein, dans le roman, en disant que ben, chacun a fait son choix et qu'ils se sont opposés à moi, et du coup je me dresse contre eux, qui est un personnage très flamboyant, qui représente totalement la jeunesse et aussi peut-être la vision de l'auteur de ce que devrait être la jeunesse. Pareil, on pourra peut-être y revenir.
Qu'est-ce que tu veux dire, la vision de l'auteur, Fabien ? Je te comprends pas.
Si autant le style m'a énormément happé, beaucoup d'éléments.
Alors oui, le style. Insistons avant peut-être de lui retailler le costume. Jean Raspail écrit extrêmement bien avec un vocabulaire. Alors. Oui, un peu suranné, hein. On sent que... C'est bizarre, ça. On sent que le monsieur, il pense un peu au passé.
Après,
mais le vocabulaire est riche, il y a des très bonnes formules, et moi, alors je le concède, j'ai appris ou réappris des mots que je n'avais pas l'habitude de
voir. Tout à fait. Après, pour Jean Raspail, le bouquin date de 92-93, mais Jean Raspail était déjà plus très jeune du tout, vu qu'il est né en 1925. Donc déjà, on n'est pas sur un roman moderne d'un écrivain jeune. Ça date un tout petit peu.
Pourquoi tu dis ça ?
Non, c'est important. Et quand on dit qui ?
Non, mais tu veux nous dire quelque chose peut-être,
Non, mais juste sur l'auteur, je préciserai autre chose. Quand on dit il sait écrire, il est aussi passé, je l'ai appris après, qu'il a été il a candidaté à l'Académie française et il n'a pas été pris. Voilà.
Je ne suis pas surpris. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite vibe Le Figaro en lisant ce bouquin.
Totalement. Donc là, si je dois reprendre un peu sur les idées qu'ils transmettent et qui vont faire que, certes, le style est excessivement prenant, mais beaucoup de choses qui sont communiquées m'ont gêné fortement. Je vais commencer déjà à quelque chose d'assez basique sur le rôle et la place de la femme dans le récit.
Ah, vas-y, tu m'intéresses.
Nous avons 7 cavaliers, sont 7 hommes. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas.
Ils ont le droit.
Il y a celui qui leur donne le congé, enfin l'ordre, et donc le margrave, qui est un homme. Et en fait, on va rencontrer très très peu de femmes. Et comment dire, en termes de personnages, la femme est un ventre, vaguement une maîtresse de maison bien cachée, qui se tient, qui est cachée, une amante d'un jour une nuit, une prostituée, et c'est à peu près tout.
C'est exactement les qualificatifs que j'avais retenus pour la manière dont le roman aborde les femmes.
Donc un roman excessivement masculin, et à la limite on pourrait avoir un roman excessivement masculin sans avoir autant une description féminine de
C'est plus masculiniste que
Oui.
masculin et il y a un éloge assez patent de la virilité, même entre
Tout à
hommes.
fait, exactement. Ce qui est marrant, qu'il ne percute pas forcément au début, où il y a un personnage qui est Paloma, je ne sais plus, qui est un personnage féminin, et qui en fait est une prostituée, mais qui a une place assez forte dans les 10 premières pages, hein, avant qu'il s'en aille, et ensuite disparaît totalement, et ensuite il n'y a quasiment plus de femmes de tout le roman, et les rares fois sont vraiment sur des visions assez étranges et poussées de la femme. J'avais parlé aussi de la vision un peu bête de l'autre, de l'étranger. Alors, outre qu'ils essaient d'aller à l'extérieur du pays pour essayer de communiquer, voir ce qui s'est passé, ça c'est une première chose. Ceux qu'ils vont rencontrer, je vous l'ai dit, il y en a dans l'équipée, dans les sept, il y en a un qui est un peu disons le bon sous-subordonné, hein. Il parle pas très bien, mais c'est un tracker, et puis il fait honneur au margrave,
Oui, il est
il est
fidèle.
fidèle, et il accompagnera l'équipée très très longtemps. Et ensuite, on va aller dans les montagnes où on va croiser des Tchétchènes notamment, et puis plein d'autres peuples plus ou moins définis qui sont un peu en rébellion et qui sont, on va le dire, à un moment donné, sur une vision, où on va voir qu'ils sont l'ensemble des peuples, disons non européens, sont listés à un moment donné sur une scène, prêts à envahir le pays. Donc cette sensation de d'État assiégé, on dira, par l'entièreté de l'étranger, ils sont absolument,
Étranger qui est décrit comme
bien
sauvage,
sûr,
avec des rides bien à eux.
exactement, et qui ne sont pas décrits en tant que personne, hein, vraiment quasiment pas. Donc ça, j'ai parlé de la vision aussi de la jeunesse, hein, où à part quelques éléments tels le cadet, la jeunesse déteste les vieux sans raison, s'est rebellée et à l'attaque et en totale déliquescence. Bref. Donc beaucoup d'éléments qui. Je peux aussi parler de la place de la religion. Qui est
Oui.
extrêmement forte. Alors pour le coup, autant la place, on est vaguement en Europe, l'époque c'est vaguement ça, autant la religion, on est clairement catholique. Et je le dis vraiment parce que ça a un sens et ça porte vraiment dans le roman. Il y a vraiment toute cette histoire là. Alors la question de la foi est présente aussi, qui est, je trouve, plus intéressante et relativement bien traitée avec le prêtre. Hein,
Tout à fait. Et ben, je pense qu'il y a une des meilleures scènes du roman quand il adoube enfin, je sais plus, c'est un espèce de curé qu'il rencontre dans un des rares villages où il y a encore du monde et il lui donne l'onction et il le lève à un rang qui est complètement ubuesque par rapport à on va dire, la compétence religieuse entre guillemets de l'abbé en question. La scène, elle est hyper drôle, elle est hyper cynique.
Elle est cynique et en même temps on sent la tristesse du personnage. C'est vraiment cette question de la recherche de la foi. Alors pour le coup, moi je trouve quelque chose qui est très très bien fait dans ce roman sur ce personnage. Mais on nous parle aussi de la puissance du pays où des milliers d'années, des milliers de catholiques enterrés donnent une vraie aura à un pays. Bon. C'est pas exactement la question de la recherche de la foi qui est mise en avant à ce moment-là.
On est plus dans un réflexe de protection de la foi qui est en train de s'éteindre, plutôt que dans la valorisation, enfin, d'une période flamboyante de cette
Tout à
foi.
fait. Donc tout cela me faisait un peu tilter jusqu'à effectivement que je me penche. Je pense qu'on peut en parler de l'auteur,
Je t'en
et qui a
prie.
expliqué tous ces sentiments que je trouvais un peu étranges. Alors effectivement, le monsieur écrit très bien, mais le monsieur était surtout un compagnon de longue haleine de l'extrême droite, mais de l'extrême droite genre violente, hein, et qui est extrêmement populaire dans l'entièreté de l'extrême droite mondiale pour certains de ses écrits et de cette question de la peur de l'étranger, de la perte de la civilisation, etc. De la peur de l'immigration, de la peur de la dégénérescence. Enfin, bon, l'entièreté des thèmes chers à l'extrême droite. Faut savoir aussi qu'il a été, comment dire, dans certains partis qui ont été, complètement d'extrême droite, hein, le parti des Forces Nouvelles, donc une vraie figure forte de l'extrême droite, et quelque part ça se ressent complètement dans son livre, hein, c'est pas caché du tout.
Tu veux dire que la déliquescence, l'atmosphère un peu pourrie là, qui nous met là avec ces cavaliers qui partent un peu sans but parce que il y a plein de gens autour là qui ont compris de leurs aises et tout, et ils sont pas catholiques et ils parlent pas la même langue qu'eux, et en plus c'est des sauvages et toutes les femmes elles sont perfides. Tu voudrais dire qu'en fait ce serait une allégorie pour la déliquescence sociétale?
Oh, c'est possible que la porte de l'Ouest qui n'est pas gardée, il y ait un certain... Hein, attention, hein, l'Ouest qui pourrait être attaqué par les migrations qui sont présentes, oui, c'est possible que ça retransparaisse un tout petit peu.
Donc en fait, il est nostalgique ou il nous prévient, genre Aspine?
Alors là, dans ce roman, c'est pas de la nostalgie. Clairement, le roman n'est pas nostalgique. Le roman est crépusculaire. Le pays est en train de partir à volo à cause des jeunes, à cause des femmes, à cause d'un peu tout. On est au bord d'être attaqué. La civilisation est au bord d'être disparue à cause des vagues d'immigration. Enfin, c'est écrit. C'est ce que transparaît le roman. Cependant, hein, c'est ce que je dois dire. Hein, c'est très bien écrit.
C'est un peu tout le problème, c'est l'ambivalence entre la forme et ce qu'il raconte.
Exactement.
Parce que la déambulation des sept cavaliers qui quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée, elle est intéressante à suivre et elle est savamment racontée. Il y a un dispositif narratif qui est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure de cette atmosphère de fin. Il y a aussi une atmosphère en fait de dilution du temps.
Tout à fait.
Alors non seulement on peut pas placer l'époque, mais au bout d'un certain temps assez court a priori, quand ils sont partis de la porte, par la porte de l'Ouest, qui n'était plus gardée a priori, ils sont pas d'accord sur le nombre d'heures et de jours qui s'est écoulé.
Oui oui très. Alors, et puis après ils arrêtent de chercher aussi.
Il y a un dialogue qui est très marrant où en fait ils comptent pas les jours de la même manière et tout est censé dans la manière dont ils le font, où ils parlent des jours, du nombre de jours qui s'est écoulé depuis qu'ils sont partis, et le nombre de jours que ça prendra à un messager de les rejoindre et de repartir vers le margrave et de revenir pour situer le temps. Et au final, il y a une confusion totale de ça fait combien de temps, et le temps est complètement dilué, et du coup, ça participe complètement à cette atmosphère de perte. C'est très malin, mais après, à nouveau, il y a le propos. Et quand on mélange un peu tous les éléments qu'on donnait tout à l'heure de manière un petit peu ironique sur les jeunes, les femmes, l'étranger, et en fait c'est eux les responsables hein, selon l'auteur, ou en tout cas selon les personnages, et donc l'auteur qui parle à travers eux, ce sont eux les responsables de ce déclin.
Oui, oui, c'est dit qui est un peu... Oui, parce que cette partie de roman crépusculaire marche excessivement bien, mais quand on lit, de temps en temps, on fait « Ah, bon, bah, d'accord, mais tous les jeunes n'aiment plus les jeunes ne respectent plus les vieux, d'accord. Les femmes sont perfides, ah, ben, l'étranger arrive, la religion, c'est ça qui fait vraiment un pays, mais attention, c'est en perte de vitesse, tout ça, c'est des thématiques... connu, reconnu, ça pourrait... Et c'est surtout la manière dont elles sont traitées. J'y reviens sur le rôle de et la place de la femme. On peut avoir un roman crépusculaire avec une vision très masculine sans pour autant avoir cette vision de la femme moitié prostituée, moitié maîtresse de maison et moitié objet. Oui, ça fait trois moitiés.
Et attention, parce que du personnage dont tu parles, donc la prostituée, non seulement... elle est prostituée, ce qui pour Jean Raspail est waouh, incroyable. Il faut pas faire ça, hein, c'est pas bien les enfants. Donc prostituée, mais en plus perfide.
Bien sûr.
Elle trompe.
Tout à fait. Donc c'est compliqué comme livre, comme critique. Enfin, c'est compliqué, non, dans le sens où les idées transparaissent excessivement fort. Quand je me suis renseigné sur l'auteur, finalement, ça m'a j'aime bien me renseigner après avoir lu, et ça m'a convaincu à 100% de ce que je lisais, hein, que j'avais bien compris ce qui transparaissait. Je suis pas surpris que ce soit un auteur qui soit phare dans l'entièreté de l'extrême droite. Ce qu'il racontait, c'est ni plus ni moins. En fait, vous pouvez le lire, vous avez le programme plus ou moins de l'extrême droite. Hein. Enfin, peut-être pas son programme, mais au moins sa vision du monde.
Ses craintes.
Sa vision du monde. Je ne sais pas si c'est ses craintes.
Oui, donc c'est
craintes. Non, même pas ses craintes, sa vision du monde. On y revient quand je disais qu'il était l'auteur à droite violente. Il était fondé à un parti, plus ou moins lié à un parti fasciste. Il était lié dans des associations de soutien à l'OAS. Il a participé à créer... TV Liberté, etc. Donc non, on est quand même sur pas non plus sur l'extrême droite light, hein. Non, 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 c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Après, bon, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus à part.
Ce qu'on peut dire de plus, alors moi je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on fera pas de partenariat avec TV Liberté, c'est dommage. Oh. Et ensuite, moi j'avais une question, alors elle est plus très claire dans mon esprit, mais elle l'était pas en la lisant non plus, donc j'aimerais bien avoir, si ce n'est ta réaction précise, ton ressenti sur la fin, qui m'a perdu.
Ah, alors,
sans dévoiler d'éléments
très compliqués,
la fin est hors roman et je ne l'ai pas. J'ai pas décidé en fait ce que j'en avais compris.
Je suis d'accord. Les 5 dernières pages, je vous ai dit, ils partaient en quête plus ou moins d'un pont Loa. Ils y arrivent et ils traversent. Jusque là, ça va. Et après, il reste 3 pages. Et
alors, on sait encore moins où on est. On sait encore moins quand on est. Mais on est plus proche de
lui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que le vrai ailleurs qu'il recherche, c'est notre monde à nous ? Ouais. Quelque part, est-ce que je ne suis pas trop sûr non plus.
Il y a un côté en fait pour nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, et c'est sûr qu'ils n'ont pas lu le livre vu à quel point il est difficile à trouver.
J'allais revenir aussi sur ce point.
on finira là-dessus, je pense, mais on est vraiment. Je veux dire, on est perdu dans ces dernières pages. On a l'impression d'avoir, soit on a halluciné tout le livre, soit on hallucine cette partie-là.
Oui, il y a ça. C'est extrêmement compliqué à décrire. Il y a un deuxième point aussi, et que j'y repense en en parlant. Il y a un poète qui est cité tout le long.
Tout à fait.
Alors, dont le nom m'échappe légèrement, je vais juste le...
C'est un nom à consonance d'Europe de l'Est.
Attends, je vais le chercher.
Si je le prends, vas-y, on reprendra au début de ta phrase, du coup.
Oui, parce que je sais lequel c'est, donc si il est facile.
Non, mais j'ai pas le e-book sous les yeux.
Non, j'ai pas besoin du e-book.
Attends, tu cherches le nom du vrai poète ?
Oui, non, mais c'est bon, je l'ai.
Mais
c'est son nom de base, son nom de naissance en fait. Donc, un autre point sur lequel je veux revenir, c'est qu'un poète est cité, donc c'est un poète une égérie du pays, et il est cité régulièrement et ses poèmes reviennent tout le temps. Et là, on peut spoiler ou pas, mais je vais me permettre de le faire. Il faut savoir, le poète s'appelle Willem Kostrowicki. Dans ce roman, c'est un vrai poète qui existe vraiment. Willem Kostrowicki, c'est le nom de naissance de Guillaume Apollinaire. Et les poèmes qui sont cités, qui sont tous les passages, sont des poèmes d'Apollinaire. Alors pourquoi Apollinaire ? Sûrement parce que Raspail en est très fan. J'ai dû le voir parce qu'il y a une note de page tout à la fin qui explique ça, parce que je ne savais pas que Willem Kostrowicki était le nom de naissance de Guillaume Apollinaire.
Même chose, si ça peut être rassurant.
Donc j'ai l'air d'étaler, mais pas du tout, hein, je me suis renseigné un peu et c'est surtout c'est écrit. Tout simplement, je pense que l'auteur en était fan et voulait insérer ça. J'ai pas eu plus de raison que ça, mais effectivement, c'est assez surréel, ce qui est rigolo. On parle
de... Oui, voilà. Parce que, en fait, pourquoi on vous parle de ça et pourquoi Fabien nous parle de ça ? Parce que dans ces 5 dernières pages complètement ubuesques, il a un rôle très important.
Oui, tout à fait. Mais c'est assez surréel aussi, à cette fin. J'arrive pas à savoir si c'est pouvoir faire le lien entre des époques, mais en fait, ce que ça en dit est assez réduit. C'est pas comme si c'était une projection pour ensuite avoir un vrai propos et genre une mise en garde ou quoi que ce soit qu'on pourrait s'attendre de ce type de livre ou une morale, pas du tout. Donc je suis assez d'accord que la fin est complexe.
Donc on peut reconnaître au moins, sans être sur le fond et sur la personnalité de Jean Raspail, que cette dernière partie, elle fait un effet où elle nous laisse dans une perplexité. Ça au moins c'est réussi si c'est l'objectif. Si c'est pas l'objectif, c'est complètement raté.
Je pense que c'est l'objectif. De vouloir faire réfléchir avec des liens avec plus la modernité. Parce que...
Peut-être cette question d'une... Alors, je ne vais pas dire une France, mais d'un pays ou d'une civilisation, un terme qu'il doit vraiment apprécier, qui serait un peu intemporel. Peut-être que c'est pour ça.
C'est ça, mais j'y reviens, vu la manière dont c'est écrit et tout ce qui transparaît, enfin c'est pas caché ni rien, je pense que s'il avait voulu faire passer un vrai message, il aurait peut-être phrasé légèrement différemment. De toute façon, c'est sûr, parce que vu comment c'est phrasé par rapport au reste du livre, on a vraiment là une dichotomie assez forte entre les 3 pages du livre et les 163 pages. Donc je pense que c'est complètement volontaire et je suis d'accord que ça perd un peu. Mais c'est pas forcément gênant. Ça ouvre un peu.
Ah putain, pardon. Vas-y, oui, reprends ta phrase.
C'est pas forcément gênant, ça ouvre un peu finalement ce que voulait dire l'auteur. Après, est-ce qu'on a envie de se pencher sur ce que veut dire l'auteur ? C'est un autre sujet.
Eh bien, tu vas pouvoir nous dire tout de suite, puisqu'après avoir ouvert, je te propose de refermer ce livre, même si tu vas le réouvrir après pour un extrait. est-ce que tu recommandes Les 7 cavaliers qui quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée, Fabien?
Eh bien, alors, déjà, avant même de le recommander, je vais faire un premier point, c'est-à-dire que, qu'on vous le recommande ou pas, si vous voulez le lire, bon courage. ce livre n'est plus édité, ce livre a donc été édité il y a plus de 30 ans, ce livre n'est plus édité, ce livre est introuvable dans les librairies, est introuvable en occasion, est introuvable en bibliothèque, autant vous dire que vos chers serviteurs en ont un peu bavé pour arriver à le récupérer et à le lire. Donc ça, c'est mon premier point.
ça commence mal pour les 7 cavaliers.
Donc même si je vous le recommandais. Alors, comme on a dit, c'est extrêmement bien écrit. Et par contre, je ne peux pas vous recommander de lire un livre foncièrement fasciste. Donc je ne vous le recommanderai pas. Et en fait, c'est pour vous éviter de passer plusieurs jours à arriver à le trouver.
Merci. Je vais vous donner la recommandation d'Inès. Sans argument, 2 points, oui. Et la mienne, je vais rejoindre et épouser complètement la position de Fabien. C'est très difficile à trouver, rien que pour ça, je ne peux pas décemment vous recommander ce livre. Si jamais, par hasard, il tombe dans vos mains, ou si jamais une personne mal intentionnée vous l'offre, vous pouvez le lire, parce que comme l'a très bien dit Fabien, c'est très bien écrit, mais avec un regard absolument critique sur les intentions de l'auteur que vous avez désormais en tête, puisqu'on vous les a révélées. Et pour conclure cette partie sur cette critique, Fabien, tu vas nous proposer un extrait des 7 cavaliers.
Tout à fait. 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule, face au soleil couchant, par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. Tête haute, sans se cacher, au contraire de tous ceux qui avaient abandonné la ville, car ils ne fuyaient pas, ils ne trahissaient rien, espéraient moins encore et se gardaient d'imaginer. Ainsi étaient-ils armés, le cœur et l'âme désencombrés scintillant froidement comme du cristal, pour le voyage qui les attendait. Sur l'ordre du margrave héréditaire, simplement, ils allaient. Ils s'étaient mis en mouvement, et le plus jeune d'entre eux, qui n'avait pas 16 ans, fredonnait une chanson.
Merci Fabien. On passe à la partie finale du podcast, nos recommandations.
Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Que je puisse.
Inès nous a laissé une deuxième petite note vocale, on est bien servi, pour nous expliquer quelle est sa recommandation du mois. Je t'en prie, Inès.
Donc moi, ma reco, ça va être un livre que j'ai en réalité lu à l'automne 2023, mais que je présente à tout le monde depuis, parce qu'il s'agit un peu de ma dernière hyperfixation littéraire. Il s'agit de Déplacer la Lune de son orbite, d'Andrea Marcolongo, qui est une œuvre hyper récente, parce que je crois qu'elle est sortie en avril 2023. Et donc du coup, Andrea Marcolongo, c'est une journaliste italienne qui se définit comme helléniste parce qu'elle a passé toute sa vie à travailler sur l'histoire grecque. Et dans ce livre, elle revient sur le privilège d'une vie qui lui a été accordée et qui était celui de passer une nuit entièrement seule dans le musée de l'Acropole à Athènes. Du coup, en fait, dit comme ça, ça ressemble un petit peu à un livre d'histoire, mais en fait, c'est plutôt une sorte de claque hyper émouvante qui revient sur toute la dette civilisationnelle de l'Europe à la Grèce antique et puis même globalement sur le pillage de toute l'histoire d'un pays avec l'histoire avec un grand H, tout en posant des questions ultra intéressantes et concrètes sur la relation à ses propres racines lorsque l'on est immigré. Du coup, c'est vraiment mon gros coup de cœur, mon dernier gros coup de cœur littéraire du moment.
Quelle est ta recommandation ce mois-ci, Fabien ?
Ma recommandation est une série télé qui s'appelle For All Mankind, dont la quatrième saison vient de sortir. Il me semble sur Apple TV, si jamais vous êtes quelqu'un de qui suit fortement sur quelle plateforme sortent les affaires. Et c'est une excellente série de science-fiction.
Ça parle de quoi en quelques mots ?
Qui est une uchronie qui part dans la première saison, commence dans les années 60, et l'idée c'est l'URSS arrive en premier sur la Lune, avant les Américains, et ces derniers décident donc que la course à l'espace n'est pas finie, et la course à l'espace va continuer. Donc il va changer finalement l'ensemble des dynamiques de pouvoir d'histoire et d'éléments qui peuvent arriver, et la dernière saison se passe, si je ne m'abuse, en 2002-2003, et nous en sommes à la colonisation de Mars. Sachant que chaque saison bien. Se passe avec quelques années d'écart par rapport à celle d'avant pour qu'on puisse avancer facilement dans le récit.
Très bien, donc c'est 4 saisons et c'est quel format d'épisode
C'est une dizaine d'épisodes par saison qui font 40 à 50 minutes.
Super, merci pour la reco. Quant à moi, je vais vous recommander alors, un jeu vidéo qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Ça s'appelle Tunic, ou Tunic, donc comme le vêtement. Développé par une seule personne, un Canadien qui s'appelle Andrew Chul Dice. Donc, j'insiste, une seule personne. Donc, c'est un passion project, comme on dit en anglais. C'est édité par Finji. Et qu'est-ce que c'est Tunic ? De prime abord, ça ressemble à un clone de Zelda, donc en vue isométrique avec un héros qui est un renard tout mignon, qui va devoir explorer son monde où il va trouver des coffres, des objets qui vont lui permettre d'accéder à d'autres zones. Il y a des boss, il y a des ennemis, il y a des passages secrets. Et là où c'est vraiment très très intelligent, sans trop en divulguer, c'est que le jeu n'a pas de manuel, il n'y a pas d'instruction, on est lâché tout de suite dans le monde et on doit complètement deviner nous-mêmes ce qu'on doit faire avec des éléments qui peuvent être ramassés qui vont être des pages du manuel du jeu. Et non seulement on a les instructions qui se dévoilent au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'on a accès à toutes les capacités dès le départ mais qu'on ne sait pas qu'on les a et qu'on ne connaît pas les commandes, donc c'est très malin. Il y a énormément de secrets, à la fois sur les objets ramassés, dans le monde dans lequel le personnage évolue. Et je terminerai en vous disant que c'est un jeu qui est relativement court, si vous aimez le genre, et qui a une bande-son incroyable. Fabien, il ne me reste qu'à te dire merci pour ces critiques et puis cette recommandation, sans oublier la phrase du mois.
Eh bien, merci Armand, et c'était un grand plaisir.
Eh bien, partagé, comme d'habitude. On remercie aussi Inès, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a participé et qui a été dans nos cœurs pour cet épisode. Et il ne me reste qu'à vous laisser en compagnie de Mehdi pour le tirage au sort du prochain numéro. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.
Et merci Armand. En effet, on se retrouve pour la dernière partie du podcast. C'est moi, Mehdi, l'animateur du prochain épisode qui prend la main, puisqu'on va tirer ensemble les livres que nous allons critiquer le mois prochain. Et pour cela, j'accueille donc les chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagneront lors du prochain épisode. Bonjour Cyrielle.
Bonjour Mehdi, bonjour Antoine.
Et bonjour Antoine.
Bonjour Mehdi, bonjour Cyrielle et bonjour à tous.
Donc, je vous rappelle que je vais tirer au sort parmi la liste de l'ensemble des propositions des auditeurs et auditrices du podcast. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous envoyer des listes à podcastdmed@gmail.com. Il n'y a pas de limite dans le nombre de livres que vous pouvez nous envoyer, dans les genres, dans les styles. Faites-vous plaisir, envoyez-nous juste ce que vous voulez. Et je tire au sort donc parmi ces propositions, et chacun des chroniqueurs et chroniqueuses ici présents a le droit à un et unique veto pour se débarrasser d'une œuvre dont il n'a pas envie. Et je commence tout de suite le premier tirage avec un livre paru en 2019. Il nous vient d'Algérie, il fait 252 pages et s'appelle « Les Petits de décembre » écrit par Kauthar Adimi. Antoine, est-ce que tu mets ton veto ?
Non, je ne crois pas avoir lu, déjà lu le livre d'auteur algérien, donc ça pourrait être l'occasion.
Cyrielle, est-ce que tu mets ton veto ?
Non, non plus.
Et moi non plus. Deuxième tirage. On part cette fois-ci aux États-Unis avec un livre paru en 2020 qui fait 192 pages et s'appelle Eden Springs de Laura Kasiske. J'espère bien prononcer son nom. Cyrielle, est-ce que tu mets ton veto ?
Je ne connais pas, donc non, je garde. Pas de veto pour moi.
Antoine ?
Pas de veto non plus.
Moi non plus, nous avons donc déjà nos deux romans. Et on passe à la BD. Premier tirage pour la BD. Ce n'est pas une BD, c'est un manga qui vient donc du Japon, qui fait 378 pages. C'est Banana Fish, tome 1, d'Akimi Yoshida, paru en 1985. Antoine ?
Sans opinion. Ouais, en vrai, j'en sais rien. Bon, pourquoi pas le garder ?
D'accord.
Mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas les autres propositions, c'est ça qui est terrible.
Et c'est ça, c'est le piège. Cyrielle ?
Du coup, c'est un manga qui est paru en quelle année, t'as dit hein ?
1985.
1985, ok. Non, je le connais pas, donc non, pas de veto pour moi.
Eh ben, donc on sera sur un tirage au sort sans veto. C'est là qu'on reconnaît les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont du courage, qui n'ont pas peur d'affronter l'inconnu. Donc bravo à vous. Et je récapitule, Les Petits de Décembre de Kawther Adimi, Eden Springs de Laura Kasiske et Banana Fish d'Akimi Yoshida. Je vous donne rendez-vous dans un mois et d'ici là, bonne lecture. Vous pouvez dire au revoir.
Au revoir.
Au revoir.